Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, cette image inédite, un ancien président au tribunal.
Nicolas Sarkozy doit comparaître à partir d'aujourd'hui dans l'affaire dite des écoutes. Toutes les explications dès le début de ce journal. On appellera le maire de Joinville-le-Pont où 16 personnes ont été verbalisées hier lors d'une soirée clandestine. C'est la deuxième fois en une semaine au même endroit. Et puis le vaccin, c'est presque demain pour les Américains. Washington a fixé une date, le 11 décembre.
RTL Matin.
Cette fois, il ne s'agit pas de séduire des électeurs ou d'emporter des foules, mais de convaincre des juges. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, ramené au rang de simple prévenu. Il comparaît aujourd'hui dans l'affaire dite des écoutes.
Est-ce que vous rendez compte de la gravité de ce qui a été fait? Et c'est dans le cadre de ces filets dérivants qu'on écoute une conversation, ce qui est à proprement parler scandaleux, entre un avocat et son client. Mais où est-on? Mais si dans l'univers de M. Poutine, on se comportait comme ça, mais nous sommes le pays des droits de l'homme quand même.
Nicolas Sarkozy sur BFM TV le 13 novembre dernier. On va revenir dans le détail sur ce qui est reproché à l'ancien président, qui est donc le premier à comparaître devant un tribunal, puisque Jacques Chirac, en 2011, avait été jugé en son absence. Bonjour Anne-Le Hénaff.
Bonjour.
Alors, ce dossier dit des écoutes ou affaire Bismuth remonte à 2014. Vous nous rafraîchissez la mémoire. Qu'est-ce qu'on reproche concrètement à Nicolas Sarkozy?
Alors, Nicolas Sarkozy aurait cherché à savoir comment avançait sa demande de faire annuler la saisie de ses agendas présidentiels dans une autre enquête, l'enquête sur l'affaire Bettencourt. Et pour cela, avec son avocat, il aurait promis d'aider un haut magistrat à obtenir un poste à Monaco en échange d'informations. Il y a des écoutes, en effet, de téléphones portables dans cette enquête, notamment des fameux portables achetés au nom de Paul Bismuth. On entend, entre autres, Nicolas Sarkozy dire à Herzog « Je le ferai monter, je l'aiderai, appelle-le en lui disant que je m'en occuperai parce que je vais à Monaco et je verrai le prince. Peu importe que Gilbert Azibert n'ait pas eu ce poste, il n'a d'ailleurs pas postulé. Pour les juges, ce pacte de corruption a bel et bien existé. »
Mais Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog se savaient sur écoute.
Alors là, c'est l'histoire dans l'histoire, parce qu'ils changent de ton radicalement dans ces écoutes en février 2014. Les juges pensent donc qu'une taupe les a alertés et ils vont la traquer, cette taupe. En épluchant les fadettes de nombreux avocats, ce ne sont pas des écoutes, mais des relevés des appels qui ont été émis et reçus. Ça, on ne l'a su que très récemment. Le camp Sarkozy a dénoncé un acharnement politique et l'avocat Éric Dupond-Moretti a porté plainte contre le parquet national financier avant de leur retirer sa plainte lorsqu'il a été nommé ministre de la Justice. C'est dire l'ambiance sereine et détendue dans laquelle va se faire ce procès.
Et ce n'est pas le seul procès qui attend Nicolas Sarkozy.
Non, au printemps prochain, il y aura l'affaire Big Malion qui va arriver devant le tribunal sur le financement de sa campagne présidentielle. Et puis le dossier libyen dans lequel il a été mis en examen récemment pour association de malfaiteurs. Nicolas Sarkozy se dit à chaque fois innocent. « Je ne suis pas un pourri », a-t-il dit récemment.
Merci pour toutes ces précisions, Anne-Le Hénaff, et précisons qu'on n'est pas à l'abri d'un renvoi de ce procès des écoutes, puisque l'un des prévenus, l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert, a demandé un report pour des raisons médicales. L'application musulmane jouait-elle les mouchards? C'est une info RTL. 10 utilisateurs français de l'application Muslim Pro, qui donne les horaires de prière et le sens de la Mecque, portent plainte aujourd'hui contre X pour abus de confiance. L'application est accusée de fournir des données de géolocalisation à l'armée américaine.
RTL, il est 8h03. Encore une fête privée qui fait désordre à Joinville-le-Pont, dans le Val-de-Marne.
16 personnes ont été verbalisées hier dans le même pavillon qui avait abrité le week-end dernier une soirée clandestine avec plus de 300 participants. Bonjour Olivier Daune.
Oui, bonjour.
Vous êtes le maire de Joinville-le-Pont. Vous étiez là hier lors de l'interpellation, lors de la verbalisation de participants à cette soirée privée.
Oui, je suis arrivé sur place dès que les fêtes m'ont été signalées. Lieu maintenant célèbre, malheureusement, une propriété non fermée et ouverte avec 16 jeunes filles qui venaient fêter un anniversaire et surprise d'être interpellées par la police et qui n'avaient pas regardé les médias depuis 8 jours apparemment. Donc,
pas de masque donc, évidemment.
Pas de masque et une véritable boîte de nuit à l'intérieur.
Donc vous étiez là, la semaine dernière vous aviez parlé d'attentats, de soirées presque criminelles après la première soirée qui avait rassemblé plus de 300 personnes. Là vous rediriez la même chose ce matin?
C'est même pire parce que je pense que la France entière malheureusement a découvert Joinville sous une facette qui n'est pas la sienne et on ne peut pas me faire croire aujourd'hui qu'un propriétaire puisse rester aussi peu conscient de la gravité de la situation et continuer à louer sa salle. Vous aviez quand même 3 vigiles hier soir qui étaient sur place. Donc est-ce qu'on était en début de soirée? Est-ce qu'on était je pense qu'on était en tout début de soirée.
Vous êtes en colère ce matin, monsieur le maire?
Ah oui, je suis en colère parce que c'est une insulte aux professions de santé, à toutes les personnes qui se battent contre la maladie, à tous ces commerces qui sont fermés. Déplacer de la police nationale, municipale, pour un escroc, c'est absolument anormal. Et puis, potentiellement, on est en création de cluster.
Merci beaucoup Olivier Donne, maire de Joinville-le-Pont, d'avoir été sur RTL ce matin. Autre rassemblement clandestin signalé à Paris, cette fois samedi soir dans le 13e arrondissement. 300 participants qui avaient acheté leurs billets sur Internet. C'est pour empêcher ce genre de rassemblement qu'Emmanuel Macron ne devrait annoncer demain soir qu'une levée très progressive des restrictions par étapes, avec d'abord une réouverture des commerces et des coiffeurs peut-être dès ce week-end, mais les bars et les restaurants devraient rester fermés. L'exécutif avance à tâtons, car si la progression du virus ralentit, l'épidémie est toujours là. Et ces dégâts sont nombreux, surtout chez les hommes. Les femmes, on le sait maintenant, sont moins exposées. Philippe est un rescapé de la première vague. Et quand on dit rescapé, il faut le dire vite. Car ce quinquagénaire alsacien est tombé malade en mars et il souffre encore aujourd'hui.
J'étais vraiment entre la vie et la mort. Ils n'avaient plus trop d'espoir. Presque une vingtaine de jours de coma. Aujourd'hui, j'ai encore des séquelles irréversibles. Hein. Voilà, la respiration, je suis aujourd'hui à 68% de ma capacité maximale. Donc il reste encore de l'essoufflement, hein, clairement, à l'effort. Aujourd'hui, je me retrouve sans anticorps. C'est ça qui est dingue. Hein. C'est que, je crois, un mois après être sorti de l'hôpital, on m'avait fait un test de suivi. Ils trouvaient déjà plus d'anticorps. Quoi. Donc, avec la nouvelle pandémie, j'ai pas intérêt à le rechoper. J'essaie effectivement de beaucoup moins sortir. Tout ce qui est supermarché, etc., j'y vais plus. C'est ma compagne qui aura... Elle a des anticorps, par contre. Hein. Donc, elle est blindée. Elle peut y aller plus sûrement que moi. Bon, on sait que les hommes sont plus touché que les femmes. Clairement, vu ce qui m'est arrivé, je suis un personnage à risque, on va dire.
Alors oui, ce sont les perroquets, hein, qu'on entend derrière Philippe, qui était au micro de Yannick Holland. Frappé par la crise du coronavirus, Danone annonce ce matin la suppression de 2000 postes administratifs, dont 4 à 500 en France, essentiellement des postes de directeur et de manager. Le géant français de l'agroalimentaire a vu son chiffre d'affaires baisser de plus de 9% lors du troisième trimestre.
Dans un instant, direction les États-Unis où l'on espère vacciner la population dès la mi-décembre.
Le matin.
8h08, la suite du journal de Jérôme Florin. Alors les Américains pourront-ils se faire vacciner dès la mi-décembre, Jérôme?
C'est l'objectif fixé par Donald Trump qui espère remporter au moins cette bataille-là. Le vaccin, c'est celui de Pfizer, développé avec son partenaire allemand BioNTech. Lionel Gendron, vous êtes notre correspondant à Washington. On a même une date, hein, celle du 11 décembre, c'est dans moins de 3 semaines.
Oui, et si tout fonctionne, les Américains ne seront pas les seuls à pousser un ouf de soulagement. Le monde entier va observer avec espoir. Le monsieur vaccin de la Maison Blanche donne donc une date, le 11 décembre. C'est la version optimiste, celle où les autorités sanitaires donnent leur feu vert le 10 et où la campagne débute 24 heures plus tard. Le docteur Slaoui évoque même une échéance pour une immunité collective si le vaccin est bien efficace à 95%.
Environ 70% de la population doit être immunisée pour parler d'immunité collective. On pourrait atteindre ce niveau vers le mois de mai.
20 millions de personnes pourraient être vaccinées au mois de décembre, puis 30 millions en janvier, 35 millions en février. Cette échéance est bien sûr valable s'il n'y a pas de retard dans la validation ni de couacs logistiques. Et il y a un dernier souci, comme en France, une partie de la population est réticente. Seuls 58% des Américains souhaitent se faire vacciner.
Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. Le plus dur est-il derrière nous? Il y a la perspective du vaccin. La France, on le disait tout à l'heure, s'apprête à desserrer l'étau. Et en Angleterre, le confinement ne sera pas prolongé au-delà du 2 décembre. C'est désormais officiel. Et puis en Espagne, la Catalogne va rouvrir à partir d'aujourd'hui progressivement ses bars, ses restaurants, mais aussi ses cinémas et ses théâtres. Un mot de football pour vous dire que le LOSC a terrassé Lorient hier soir 4-0. Lille sur la deuxième marche du podium, derrière le PSG et devant Lyon, tombeur d'Angers 1-0.
La storia del giorno, l'histoire du jour.
Motif de sortie non valable pour cet homme interpellé en pleine nuit près de la gare de Lannion dans les Côtes d'Armor. Pris de boisson, il a exhibé son attestation qui était bien remplie avec son nom et son adresse, mais il avait rajouté le motif à la main, il voulait péter la gueule à un mec. Il avait surtout sur lui un couteau à cran d'arrêt. Bilan de cette sortie non conforme, 135 euros d'amende. Et c'était le jour.